Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani. Le grand dialogue.
Sigi Kanfoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry. Haloud Mandi.
Chenni Berry. Sigi Kanfoba.
Le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a 3 ans qu'ils ont été assassinés. C'était le 2 novembre 2013 à Kidal que Ghislaine Dupont et Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont perdu la vie à Kidal. Les Nations Unies ont d'ailleurs institué une journée internationale de la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes. L'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, quant à elle, dénonce certaines zones d'ombre qui entourent encore le mobile et les circonstances de ce drame. Comment expliquer que certaines personnes ont eu connaissance de leur mort avant que les forces servales n'arrivent sur le lieu? Les auteurs de l'enlèvement ont-ils agi sur commande ou pour leur propre compte? L'enlèvement et l'assassinat ont-ils été prémédités? Et la libération des otages d'Arly 3 jours avant la mort des 2 journalistes, en plus de la négociation pour la libération de Serge Lazarevitch, peuvent-elles avoir un lien avec leur enlèvement? Nous répondrons à ces quelques questions et à bien d'autres avec nos invités qui sont Cheikh Amadou Diouara, journaliste indépendant, ami de Ghislaine Dupont. Il sera très bientôt avec nous. Pierre-Yves Schneider, il est journaliste, président de l'association des amis de Ghislaine et Claude. Mamadou Guissé, professeur de droit. Et enfin, Thieblien Dramé, ami de Ghislaine Dupont et politicien malien. Mercredi 2 novembre, je suis Ousmane Diadié Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Salim Diouara.
Le grand dialogue.
Plusieurs questions restent donc sans réponse. Pourtant, pour l'association, les hypothèses sur les tueurs se réduisent. Les responsables estiment qu'on pourrait même considérer qu'ils sont identifiés avec une faible marge d'erreur. Des noms reviennent plus souvent ou plus logiquement que d'autres. Confirmés ou non par des interlocuteurs haut placés, successifs, des noms associés à des clans ou à des familles bien connues de Kidal par moment. Alors, est-ce que Pierre-Yves Schneider est en ligne? Bonsoir Pierre, merci de vous joindre à nous pour cette émission. Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui sur les circonstances de la mort de nos collègues?
Alors écoutez, si vous le permettez, un préalable, d'abord je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour cette émission. Ensuite, vous dire en préalable que je peux comprendre que les auditeurs maliens soient parfois un petit peu énervés qu'on reparle de cette affaire. Peut-être en laissant imaginer que l'on néglige les victimes maliennes à la fois du conflit dans le Nord, et puis aussi je pense à tous les journalistes maliens. Il se trouve que je les connais bien, puisque je suis moi-même formateur, enseignant au journalisme, et que je connais, et j'ai beaucoup d'amis qui sont journalistes maliens. Et moi je comprends quelquefois la lassitude qu'ils ont. Mais en même temps, je sais qu'ils reconnaissaient en Ghislaine, par exemple, une journaliste exemplaire. C'est dans ce sens-là, si vous voulez, que cette affaire est aussi extrêmement importante, qu'elle soit française ou africaine ou malienne ou autre, peu importe. Là, c'est une affaire qui ne peut pas rester tout comme ça impunie. Le deuxième préalable, si vous le permettez, ça concerne l'association. Nous sommes une association dont je suis en effet le porte-parole et pas le président. C'est une association absolument indépendante de Radio France Internationale. C'est important que vous le sachiez. Nous faisons nos déclarations indépendamment à la fois de la rédaction de RFI et aussi de l'entreprise France Média Monde et RFI. Voilà. Alors pour répondre
Merci
à votre question,
cette précision.
Écoutez, on n'a pas beaucoup avancé depuis 3 ans. Il se trouve que les questions que nous nous posons depuis 3 ans, ben, elles restent les mêmes. Hein, et vous les avez résumées en début d'émission. Ce qui est nouveau pour nous au bout de ces 3 ans, c'est que il y a, si nous ne savons peu de choses, et si la justice avance avec lenteur, que ce soit la justice française ou la justice malienne, en revanche, il y a des gens qui visiblement savent des choses. Et parmi ces gens-là, eh bien, il se trouve, les hautes autorités françaises. Nous avons, à l'occasion de cette troisième date anniversaire, nous avons mis le doigt sur des déclarations, en particulier la déclaration du président de la République française, François Hollande, qui déclarait, il se trouve que c'était le 7 novembre 2013, c'est-à-dire 5 jours seulement après l'assassinat de Ghislaine et Claude, et le président disait à des journalistes qui étaient dans son bureau, et qu'il le raconte dans un livre qui est un livre événement dont tout le monde parle, en tout cas en France, le président dirait on a le cas Lazarevitch, sans doute détenu par ceux qui ont tué les deux journalistes et qui auraient tué Verdon. Cela signifie que le 7 novembre 2013, donc quelques jours à peine après le double assassinat, le président faisait lui-même une relation entre une affaire d'otage, en l'occurrence l'affaire Lazarevitch, et l'assassinat de Ghislaine Eckhout. Ça, c'est un élément extrêmement nouveau pour nous, parce que jusqu'à présent, et j'en terminerai là-dessus si vous le permettez, nous avons toujours eu un non catégorique de la part des hautes autorités, lorsque nous les avons nous-mêmes interrogés, pour leur demander s'ils pouvaient avoir un lien. Or, il se trouve que là, c'est pas nous qui faisons le lien, mais c'est le président lui-même.
Merci Pierre-Yves Schneider. Restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Cheikh Amadou Diouara, vous êtes journaliste indépendant, également un ami de Ghislaine Dupont. Alors, est-ce que aujourd'hui vous en savez un peu plus sur les circonstances de la mort?
Moi, ce que je le sais depuis novembre 2013. D'abord, Ghislaine, pour la première fois qu'elle part à Kidal, c'est moi qui l'avais aidé à partir. C'est une bonne amie que je connais. On a travaillé ensemble plusieurs fois ici à Paris. Alors, quand elle était venue dans le cadre d'abord de l'élection présidentielle, donc elle cherchait à aller à Kidal, ça la tenait à cœur. Elle a ses propres contacts. Moi, à l'époque, j'étais média relation officière à la MINUSMA, donc elle était venue voir comment elle pouvait aller. Les consignes de l'ambassade de France étaient très claires. Pas de journaliste français à Kidal. Donc, nous avons fait les requêtes, mais ça n'a pas passé. Après, il y avait évidemment une autre alternative pour partir, vers laquelle je l'ai orientée, elle est partie. Mais, à condition que, voilà comment tu pars, voilà avec qui tu travailles, pour des raisons de sécurité.
Alors aujourd'hui, autour de la circonstance de leur mort, est-ce qu'on a...
Il
y a encore des zones d'ombre qui subsistent, est-ce qu'on en sait un tout petit peu plus?
Oui, j'en viens parce que je pense que je me dois de faire cette corrélation.
Allez-y.
Elle a accepté cette condition. Elle est partie. Le fixeur l'a accueillie à Kidal, s'est occupé d'elle. Jusqu'à son retour, tout s'est très bien passé. La deuxième fois, quand elle est venue, j'étais au même poste, elle m'a sollicité. Nous avons tenté, c'était très clair. Les consignes de l'ambassade de France étaient claires. Et alors là, elle a demandé à aller à Gao. Et elle avait déjà tout organisé avec ses contacts depuis Paris, à travers ses relations avec des leaders locaux, certains responsables du MNLA, auxquels elle faisait entièrement confiance. Elle me l'a dit toujours, rassure-toi, tout se passe bien, je fais bien confiance à ceux avec lesquels. Elle était passée à Gao, j'y étais, c'était lors des assises quand il y avait eu les manifs où ils ont brûlé la maison du maire et tout. Nous nous sommes vus quelques minutes, juste avant qu'elle n'embarque. J'étais là quand le véhicule est venu de Kidal la chercher. Elle a embarqué, elle est partie, elle m'a dit ok, je verrai les mêmes contacts auxquels tu m'avais confié, qui sont bien occupés de moi, une fois sur place. Elle est arrivée, malheureusement elle n'a pas eu le temps ou elle n'a pas eu l'occasion, je ne sais pas. En tout cas, elle n'a pris contact avec personne. Mais bizarrement, le jour du rapt, elle a appelé le fixeur Abdelhamid, que j'avais mis avec elle la première fois, pour lui demander de se rencontrer à 14h. Et 20 minutes avant, elle l'a appelé, elle dit « Nous serons chez Ambéry à Grissa. Est-ce que tu connais là ?» Il dit « Oui, tu peux nous croiser. » Il a dit « Ok. » Et il m'a appelé pour me dire « Nous avons rendez-vous. » Et effectivement, 20 minutes après, Abdelhamid m'appelle. Il me dit « Allô, Cheikh, tes gens sont en train d'être enlevés. » J'ai dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ah ben, ils m'ont donné rendez-vous chez Ambéry et je vois qu'on est en train de les enlever. » Je dis « Ah oui ?»
Donc ce sont donc ces circonstances qui entourent leur rapt, ensuite leur décès. Cheikh Diouara, restez avec nous, on reviendra tout à l'heure vers vous. Thieblaine Ramé, vous êtes président du Parrainat, un parti politique, et également un ami de Ghislaine Dupont. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la CMA peut être mise hors de cause avec tous les récits qui nous indiquent un peu qu'ils étaient quand même chez Ambéry Aguilissa, un notable du MNLA?
Je voudrais d'abord rendre hommage à Ghislaine Dupont et à Claude Verlon, qui sont des amis de très longue date pour ce qui concerne Ghislaine. Et comme chacun le sait, c'est une grande amie du Mali, une grande amie de l'Afrique, et une amie personnelle, et qui est venue au Mali pour faire connaître les réalités du Mali. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis 1991, elle fait cet exercice. Depuis les débuts de la révolution démocratique, elle fait cet exercice régulièrement, comme elle le fait pour d'autres pays africains. Mais pour le Mali en particulier, il y avait un lien spécial. D'ailleurs, Thierry Perret, dans un blog daté d'hier, a mis en évidence ce lien particulier liant RFI en général et Ghislaine Dupont en particulier avec le Mali. Et puis, elle est morte au Mali. Elle est venue chez nous par amitié et elle a été assassinée avec son collègue technicien Claude Verlon. Je pense que au troisième anniversaire de leur mort, nous nous devons, et c'est d'ailleurs l'exercice qui est en cours internationalement, pas seulement à Bamako, pas seulement à Paris, mais aussi ailleurs en Afrique, notamment au Bénin, c'est leur rendre un hommage appuyé. Et puis, regretter que cela soit arrivé chez nous au Mali. C'est qu'elle avait un lien spécial avec notre pays, et cela jusqu'à la mort. Pour revenir à votre question, je dis, moi, j'en sais rien. Il y a des autorités internationales à Kidal. Il y avait des autorités internationales à Kidal au moment de cet enlèvement, de l'assassinat des deux journalistes. Depuis, les autorités françaises et maliennes sont sur le dossier depuis 3 ans. J'espère.
Et le dossier qui n'avance pas beaucoup depuis 3 ans.
J'espère. C'est évident que depuis 3 ans, il n'y a pas beaucoup de progrès. Pierre-Yves, que je salue, qui est au téléphone, vient de nous apprendre, pour nous qui sommes au Mali ici, des informations importantes venant du président de la République française lui-même. Toujours est-il qu'il y a des enquêtes en cours. Et il y a une exigence de vérité. Il faut que ces enquêtes progressent pour qu'on puisse situer toutes les responsabilités. Celui qui a parlé avant moi a donné des informations, à mon avis, intéressantes et précieuses sur le voyage de Ghislaine et de Claude à Kidal et sur les derniers contacts que Ghislaine a eu avec un de vos collègues, je crois. Je n'ai pas retenu le nom. Et je crois qu'il est extrêmement important que la justice française, les enquêteurs français progressent, mais que la justice malienne se bouge également. Je crois que ça, c'est important. La justice malienne, sur cette question, ne peut pas rester à la traîne. Le crime a été commis au Mali. Quelles que soient les difficultés d'accès à Kidal, l'État malien a des moyens d'interroger, de savoir, de poser des questions, et je pense qu'il est souhaitable. Pour l'honneur du Mali, il est souhaitable que notre justice bouge et se bouge. Je crois que c'est extrêmement important pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Le responsable de la CMA que Ghislaine et Claude étaient allés rencontrer est vivant. Et à un moment donné, il semble qu'il avait été aussi témoin oculaire de l'enlèvement.
Il a d'ailleurs donné sa version
donc,
de l'histoire.
À mon avis, il est important que des gens comme lui et d'autres puissent être interrogés et que l'on avance dans cette affaire-là.
Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Merci de rester connecté au studio Tamani. Vous écoutez Le Grand Dialogue. On parle de Ghislaine Dupont et Claude Verlon 3 ans après leur assassinat à Kidal. Mamadou Guissé, vous êtes professeur de droit à l'université de Bamako. Alors, 3 ans après, comment se fait-il qu'on en sache aussi peu? Est-ce que les enquêtes bougent aussi lentement d'habitude?
Bien, merci de m'avoir invité. Je me joins à la voix de tous pour saluer la mémoire des disparus, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Et en fait, il faut également se dire que ce crime a été commis dans des circonstances exceptionnelles. En fait, la réalisation de tous les actes d'enquête, donc des actes de procédure, est liée à un certain nombre de facteurs. Le facteur de la stabilité, le facteur de la lutte antiterroriste, le facteur même de l'existence d'une justice efficace, mais toutes les conditions, en effet, dans ce contexte, ne sont pas réunies. Cependant, il faut aller dans un autre sens. Il y a la notion de délai raisonnable dans les procédures. Est-ce que le délai de 3 ans est satisfaisant est considéré comme étant un délai suffisamment
très, très
long.
Très peu d'informations qui fusent quand même 3 ans après. On en sait très peu sur
absolument.
Les
Vous
circonstances
voyez que la progression de l'enquête dépend effectivement de l'exercice d'un certain nombre d'actes de procédure, notamment la visite sur les lieux. Le lieu du crime lui-même est considéré comme étant déjà une zone de guerre inaccessible, dans laquelle effectivement un certain nombre de forces exercent leur souveraineté en dehors de celle du Mali, et l'exercice de ces actes de procédure dépend effectivement de l'identification d'un certain nombre d'acteurs tels que les auteurs, les co-auteurs, leurs complices. Et l'exercice de ces actes dépend également de l'interrogatoire d'un certain nombre de témoins qu'on n'a pas pu encore identifier. Les seuls, d'ailleurs je crois que monsieur le journaliste a identifié un certain nombre de règles lorsque le rapt avait lieu. Au moins ce premier témoin aurait pu être interrogé. Second élément, je crois que monsieur le président,
Ambéliac, qui était un témoin également clé de l'enlèvement, a été entendu par les
mais
autorités
il y a,
françaises.
Il y a un problème. Ce problème n'est-il pas lié au fait d'abord que est-ce que Ghislaine et Claude n'étaient pas en train de découvrir quelque chose de spécifiquement troublant, aussi bien pour les autorités françaises que pour les forces rebelles. Deuxième élément, n'était-il pas sur le point de vouloir divulguer un certain nombre de secrets jugés dangereux, sinon diffamatoires pour un certain nombre d'autorités? Voilà pourquoi je pense que le secret entoure ce crime jusqu'à présent, et il est difficile, dans cet état de fait et avec l'insécurité ambiante, que la vérité puisse éclater.
Merci.
Est-ce que le professeur pose des questions ou alors il fait des affirmations? Vous dites, est-ce que...
Ce sont des questions.
Pierre-Yves Schneider, est-ce que vous me recevez?
Je vous entends très bien.
Alors, il y a environ un an, il y a eu quand même la déclassification de certains dossiers qui étaient encore classés secret défense. Est-ce que cette déclassification a permis d'en savoir un peu plus aujourd'hui?
Non, on ne peut pas dire ça, dans la mesure où, si vous voulez, ces documents qui ont mis beaucoup de temps déjà à être déclassifiés, et pourquoi d'ailleurs tout ce délai, ça, je ne comprends pas. Ces pièces sont pour l'essentiel, d'abord, la moitié seulement des pièces disponibles, d'après ce que l'on sait, ont été déclassifiées. D'autre part, ces pièces sont blanchies ou caviardées, comme on dit. C'est-à-dire que non seulement des noms ont été éliminés, mais des parties entières de ces documents ne sont pas à la disposition de la justice. Donc ces pièces, peut-être, amènent quelques pistes, mais elles sont très difficilement utilisables par la justice française. Donc, je dirais que c'est presque un homme perdu. C'est-à-dire qu'on nous a fait beaucoup patienter pour attendre cette déclassification qui avait été demandée par le juge français Trévidic. On a changé de juge, on a obtenu cette déclassification au mois de mars, et puis plus rien. Alors, vous savez qu'au moment où ces pièces ont été déclassifiées, le ministre de la Défense français, qui est Jean-Yves Le Drian, il se trouve que nous l'avons rencontré en tant qu'association. Il a accepté de venir à une réunion privée que nous faisions, une assemblée générale. Et le ministre est venu sous réserve que cette visite soit discrète. Nous avons respecté cette discrétion. Nous avons évidemment apprécié les paroles de circonstance de la part du ministre qui est venu alors après 30 mois de silence, alors que nous demandions à ce que l'armée nous dise des choses. Il n'y avait rien. Là, il est venu. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit ? Aucune information nouvelle. Il s'est retranché derrière la séparation des pouvoirs. En revanche, à un moment, et trois fois de suite, il nous a dit « Ghislaine et Claude ont été trahis ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Il ne nous a pas donné d'explication supplémentaire, ce qui veut dire que toutes les spéculations sont possibles. Et lorsque nous l'avons relancé à différentes occasions par écrit pour lui demander « Monsieur le ministre, dites-nous ce que vous avez voulu dire quand vous avez dit trahison », eh bien écoutez, ça fait 6 mois et on attend toujours. Donc de la même manière que ce que je vous ai dit en début d'émission, c'est-à-dire...
Donc ça sous-entend
en fait... président de la République, ça sous-entend, monsieur, tout simplement que le ministre de la Défense sait des choses, qu'il le reconnaît, mais qu'il ne veut pas en dire plus. Et ça pose problème.
Est-ce que vous avez l'impression justement qu'il y a une volonté manifeste des autorités françaises de ne pas faire la lumière sur cette affaire particulièrement ?
Écoutez, on est obligé de se poser ces questions-là, mais vous voulez poser aussi, vous, à Bamako, de la même manière. Pourquoi cette affaire semble aussi compliquée ? Quels sont les ressorts cachés ? Qu'est-ce que l'on veut nous cacher ? Nous cherchons simplement à nous rapprocher de la vérité. Et la justice, aussi bien française que malienne, avance extrêmement lentement, mais je dirais d'une certaine manière comme toute justice. La justice n'avance jamais au rythme que l'on souhaiterait qu'elle aille. Simplement, le problème, c'est que l'armée française, les forces armées, elles sont présentes dans cette région depuis, elles y sont toujours depuis 3 ans. Et on sait qu'un certain nombre de gens ont été arrêtés, d'autres ont été neutralisés, pour utiliser l'expression militaire. Et donc, la question que nous nous posons et qu'on se pose aujourd'hui en France le 2 novembre 2016, est-ce qu'il va y encore y avoir bientôt des témoins qui vont pouvoir dire ce qu'il s'est passé réellement. Donc si vous voulez, il y a forcément, du fait de ce silence, eh bien on imagine le pire et on imagine qu'il y a une espèce de course entre la justice qui est très très lente et puis l'armée qui est présente et qui évidemment n'utilise pas les mêmes moyens pour considérer une affaire de ce type. Donc y aura-t-il demain encore des gens que l'on pourra arrêter et juger et à qui on pourra demander la vérité ? Si, imaginons qu'il y a une relation entre ces affaires d'otages et puis l'assassinat de Ghislaine et Claude, si les témoins disparaissent les uns après les autres, on ne saura jamais le motif de leur assassinat.
Merci Pierre-Yves Schneider. Chaque jour, avant de vous donner la parole, allez-y, très rapidement.
Moi, je pense que par amitié, il y a un devoir de mémoire qui nous oblige en tout cas à préciser certaines choses. Moi, je n'hésite pas, je ne passe pas par 4 chemins. Je pense que Ghislaine en venant, c'était très clair. Ceux avec lesquels elle avait eu des contacts dans le cadre de sa mission. Parce que moi, j'ai été très surpris quelques jours après leur décès quand RFI disait qu'ils étaient au Mali dans le cadre d'une semaine au Mali que RFI organisait. C'était très clair, son agenda n'avait rien à voir. Ghislaine cherchait à savoir comment les otages d'Areva avaient été libérés. Nous avons eu plusieurs séances de travail là-dessus, nous avons échangé là-dessus, et c'est d'abord, surtout la sensibilité de ce sujet qui m'avait donné des frayeurs depuis le début. Et je pense que je ne l'ai pas caché, j'ai toujours essayé de la rappeler à la prudence. Mais après, Justin, c'est quelqu'un qui a une grande expérience, qui connaît le terrain, qui sait ce qu'elle fait aussi. Les accidents arrivent, mais elle sait ce qu'elle fait. Mais que les choses soient très claires. Je pense que, d'abord, par rapport à la justice malienne, nous savons tous le gros manquement qu'il y avait.
Justement, on a parlé de lenteur de la justice française. Est-ce qu'il y a une coopération ?
Ce qui s'est passé par rapport à leur rapt, je pense que c'est l'une des premières conséquences de la politique française à Kidal, qui a fait de Kidal un no man's land où tout le monde est là, mais personne ne contrôle rien. Tout peut se passer sous les yeux de tout le monde. Les Ghislaines ont été non seulement enlevés, mais le véhicule a traversé tout Kidal pour sortir. Il est passé sous les yeux des forces pour partir.
On a quand même pu identifier le propriétaire du véhicule.
Oui, mais ça c'est bien plus tard. Le propriétaire du véhicule, ça c'est bien plus tard, mais c'était pas non plus ce qui était plus important. C'est que d'abord, quand ils ont été enlevés tout de suite, il y avait une unité d'une force africaine de la MISMA à l'époque qui était là, avec à la tête un officier togolais qui a tout de suite engagé une poursuite, une chasse-poursuite, qui a été interceptée
qui a été interceptée
par Serval et qui a été sommé de replier tout de suite, de laisser tomber sa démarche tout de suite. Et nous ne comprenons pas qu'il était possible
d'engager, de les poursuivre à partir de Kidal, mais c'est de Tessalit que deux hélicos quittent à plus de 400 km pour venir vers Kidal. Ça déjà, je pense que c'est un peu ambigu. Mais ce qui est encore bizarre dans ça, c'est que quand le véhicule est parti, le contingent togolais, en fait, l'unité togolaise qui était là avait été sommée de se soir à son initiative, mais il n'y a pas eu de poursuite non plus.
Donc il n'y a pas eu de poursuite.
Il n'y a pas eu de poursuite de la part de Serval. Et après, c'est deux. Parce qu'à l'époque, à la MINUSMA, le responsable de la sécurité était français. Son prénom, c'est Vincent, je ne sais plus Vincent comment. En tout cas, je pense que pour élucider cette enquête, c'est des personnes qui doivent être interpellées.
Donc l'armée française doit être interrogée.
Non, il était le responsable de la sécurité de UNDSS, de la MINUSMA. Mais c'est un officier français. Je pense que c'est des personnes qui ont tout suivi et c'était lui qui a ramené les corps. Donc c'est des gens qui savent plus qu'on en sait. Et je pense que quand ils sont allés aussi à Kidal, rencontrer Ambéry et tout ça, c'était toujours en cherchant à comprendre comment ces otages ont été libérés, quelles sont les conditions. Et je pense que les personnes qu'elle avait rencontrées, avec lesquelles elle avait eu des interviews, c'était dans ce sens. Est-ce que c'est de là qu'elle a été filée à ceux auxquels cela peut déranger ou cela peut porter préjudice et qui ont organisé leur rapt et leur assassinat? Mais en tout cas, je sais que la position, l'approche des forces françaises à Kidal avait été très, très, très ambiguë. Et jusqu'à présent, personne n'a pu comprendre leur attitude. Elle était assez sournoise.
Merci, Cheikh Amadou Diouara. Cheblin Dramé, une question quelque peu politique maintenant. Est-ce que si l'administration malienne était à Kidal ou si l'administration malienne est redéployée à Kidal, cela va permettre justement d'élucider cette affaire?
Avant de répondre à votre question, je voudrais rectifier une information qui a été, une affirmation qui a été faite par Cheikh Diouara. Il a dit que Ghislaine et Claude n'étaient pas venus dans le cadre d'une semaine, qu'ils sont venus au Mali en octobre 2013 pour essayer de savoir les conditions de la libération des otages d'Areva.
Non, pas venus au Mali. Ils n'étaient pas partis à Kidal pour ça.
D'accord. Voilà. Mais je voudrais dire, je ne suis pas de RFI, je ne suis pas porte-parole de RFI, mais je voudrais confirmer que RFI avait effectivement programmé une semaine d'information sur le Mali. J'avais été contacté depuis Paris pour participer à cette émission et que Ghislaine et Claude étaient venus dans ce cadre, comme il y avait une journaliste comme Christine Muraté qui était déjà sur place avec d'autres d'ailleurs. Donc cette émission était prévue faire une semaine sur le Mali. Le voyage à Kidal était-il prévu dans le cadre de cette émission? Je ne le sais pas. Mais comme Diouara l'a dit au début, Ghislaine et Kidal avaient couvert l'élection présidentielle, notamment à Kidal, n'est-ce pas? Et donc, ce sont des faits incontestables. Maintenant, est-ce que s'il y avait une administration malienne à Kidal en octobre 2000, en novembre 2000, 2 novembre 2013, est-ce que si les forces maliennes étaient déployées à Kidal,
actuellement les forces, l'administration malienne est déployée à Kidal, ça va nous permettre justement d'élucider cette affaire plutôt?
Ce serait logique. Aujourd'hui, il n'y a pas de Mali à Kidal. Kidal échappe au contrôle de l'État malien. Donc si l'État malien revenait à Kidal, je pense qu'en toute logique, cela devrait aider à la progression de l'enquête. Mais Dieu seul sait quand l'État malien va revenir à Kidal. J'espère que la manifestation de la vérité n'attendra pas le retour de l'État malien à Kidal. Et pourquoi? La raison pour laquelle il faut que les deux gouvernements maliens et français, et qui sont sur cette enquête-là à travers leurs administrations de la justice,
fasse progresser les choses. Les forces internationales sont à Kidal, elles étaient à Kidal le 2 novembre 2013. Et je pense que il y en a, les quelques noms sont déjà connus de ceux qui ont été témoins ou témoins oculaires même.
Notamment cette revendication d'ailleurs de Amada Agahma Di Abdelkrim, en son temps, qui avait revendiqué l'assassinat au nom de Acme, mais Abdelkrim qui serait aujourd'hui décédé. Nous reviendrons tout de suite après quelques secondes de pause.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Vous écoutez le grand dialogue du Studio Tamani. Nous parlons de la mort de Claude, de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, 3 ans après leur décès, l'état des lieux de l'enquête. Alors, Thieblaine Dramon était sur une lancée avec Abdelkrim, qui aurait été justement tué par les forces françaises à un moment donné. Mais est-ce que depuis lors, on n'a pas vraiment entendu vent d'autres arrestations?
Moi, j'en sais rien. Comme vous le savez, je ne suis pas dans l'État malien. Je n'ai pas d'informations de ce genre. Je sais qu'il a été rendu public par les soins de l'armée française que ce chef de la Sariat et l'Ansar, qui était le Abdelkrim le Targhi, Amada Agahma, a été neutralisé, pour utiliser un terme que les militaires utilisent, affectionnent en particulier, et que d'autres acteurs militants ou dirigeants de groupes terroristes au nord ont été également neutralisés. Et j'ai appris sur RFI qu'il y a eu des arrestations de certaines personnes qui étaient soupçonnés ou qui auraient pu avoir des relations ou un lien avec l'enlèvement et l'assassinat, et que ces personnes arrêtées ont été remises aux autorités maliennes. Et il semble qu'elles ont été libérées dans le cadre de mesures de confiance, dans le cadre du règlement du conflit du Nord. Toujours est-il que dans cette affaire, comme dans d'autres, dans la perpétration d'autres crimes, il est extrêmement important d'éviter de s'embarquer dans la voie de l'impunité. Dans la voie de l'impunité, par conséquent, et si des gens ont été dans les mains des militaires français et de la justice malienne, cela veut dire qu'il y a dans la documentation, dans les archives, des informations précieuses qu'une enquête pourrait utiliser à bon escient. Et toute la question qu'il faut que cette enquête-là prenne de l'envol, que ça avance, et que les familles, d'abord, les amis, ensuite, mais que les opinions publiques maliennes et françaises sachent la vérité sur le crime commis le 2 novembre, porte de Kidal.
Merci, monsieur Gramé. Amadou Guissé, dites-moi, aujourd'hui, comment se passe ce genre de collaboration quand on voit quand même qu'il n'y a presque pas de contact entre justement la justice malienne et la justice française à propos de ce dossier?
En fait, avant même de parler de contact, vous voyez, lorsque il y a une certaine connivence entre la justice et la politique, le problème est difficile à régler. Lorsque certains individus sont arrêtés, mis à la disposition de la justice malienne, et sous l'impulsion ou sous la pression de forces étrangères telles que la France, on est sommé de les libérer, je ne pense pas qu'on puisse tirer profit. Et vous savez combien de fois, effectivement, pour des raisons fallacieuses, certains individus ont été libérés, et pour lesquels, effectivement, je ne pense pas qu'il faille aller au-delà de leur incarcération pure et simple. Mais au-delà de ce que je venais de dire, oui, il n'y a pas plus tard qu'hier, l'université de Bamako réfléchissait sur la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Et les problèmes qui sont posés, ils sont nombreux. Nous avons vu l'impact de cet accord sur l'État, sur la justice constitutionnelle, sur la Constitution, sur un ensemble de facteurs qui, aujourd'hui, ne peuvent réussir que lorsque d'abord la sécurité revenait. Et comme je l'ai dit, la scène du crime est une scène minée et sur laquelle aucun acte de procédure ne peut être exercé. Comment voulez-vous qu'une enquête progresse lorsqu'aucun acte de procédure ne peut et n'a pu être exercé? Premier élément. Et lorsque certains actes ont pu être exercés sous la direction de X, Y ou Z, on vous oblige à libérer ceux que vous tenez comme étant le premier maillon de l'information relative, n'est-ce pas, à l'enquête. Il est difficile aujourd'hui de parler effectivement de la réussite de cette enquête tant que la paix ne reviendra pas. Mais je pense que dans l'accord, le titre
est-ce
5...
Est-ce qu'il est possible justement de déléguer certains pouvoirs à la CMA pour justement faire avancer l'enquête, par exemple?
Vous savez, on ne peut pas être acteur et...
Est-ce que c'est réalisable?
C'est très difficile dans la mesure où je pense que quelque part, la CMA est en fait la première force responsable de tout ce désordre qui arrive aujourd'hui. Et pour cette raison, moi je pense que monsieur le président l'a déjà dit, l'histoire nous donnera raison. Et dans la mesure où le Mali, en souscrivant à cet accord, a déterminé que premièrement, ces actes-là seront considérés comme des crimes contre l'humanité, donc des crimes imprescriptibles. Et que d'ailleurs, tout sera mis en œuvre pour que justice soit faite, et alors, notamment par l'institution...
Le ministre malien de la Justice a parlé de la création d'une cour d'assises spécialisée dans les crimes liés aux terroristes. Oui. Est-ce que ça pourrait...
En fait, il ne faut pas... La réussite ou l'efficacité de la justice ne dépend pas de la création d'une institution spécialisée ou pas. Qu'il y ait un pôle antiterroriste ou pas, qu'il y ait un juge ordinaire ou un procureur ordinaire, l'essentiel, l'efficacité doit dépendre des actes posés. Et ce sont ces actes-là qui détermineront la manifestation de la vérité.
Merci beaucoup. Pierre-Yves Schneider, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je suis toujours là. Et évidemment, je pourrais réagir sur beaucoup d'aspects de la discussion, mais je me contenterai quand même de remarquer que ce que disait M. Cheikh Douara est extrêmement intéressant et important dans la mesure où il peut témoigner, lui, de certaines choses. Et il faudrait, je l'invite à se rapprocher déjà de nous dans un premier temps, pour qu'on puisse en discuter. La deuxième chose, c'est que la relation entre l'enlèvement de Serge Lazarevitch, qui a été libéré en décembre 2014, et on sait que ça s'est fait en échange de deux djihadistes emprisonnés à Bamako, ça avait fait beaucoup de bruit, et ça avait scandalisé beaucoup de gens à Bamako, et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, ce lien existe avec l'affaire Ghislaine Claude, puisque le président de la République française lui-même a fait ce lien. Donc là, il y a des éléments d'information que possède la justice, aussi bien française que malienne, pour pouvoir avancer. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'au Mali, si on veut que les choses avancent, il faudrait que les responsables politiques, et on a M. Kibile Dramé qui est à votre micro, il faut que les journalistes fassent pression aussi sur le pouvoir pour que cette affaire soit traitée avec les moyens dont elle doit disposer, pour la justice doit disposer entre autres, pour pouvoir enquêter. Alors c'est vrai que Kidal, c'est un lieu très très compliqué, mais il y a sûrement des investigations qui sont possibles à Bamako, interroger des gens qui ont été des acteurs essentiels de cette affaire. Et pour ce qui nous concerne, bah écoutez, nous on continue à nous battre. Je pense qu'on a avancé dans cette affaire, pas forcément sur l'explication de ce qui s'est passé, mais sur l'aspect, on va dire, politique. On peut dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui savent, et comme il y a des gens qui savent à Kidal, et ben il y a aussi des gens qui savent à Bamako, et il y a aussi des gens qui savent à Paris. Et donc il faut qu'ils parlent. La dernière chose, vous avez parlé du fait que Ghislaine et Claude avaient un certain nombre d'éléments d'information en main lorsqu'ils sont partis à Kidal pour réaliser des émissions. Ces émissions, en tout cas c'est ce que nous a dit RFI, ce sont des émissions qui devaient traiter de la réconciliation au Nord. Mais je peux vous certifier, comme ça a été dit aussi à votre micro, que Ghislaine et Claude savaient pertinemment l'imminence de la libération des otages d'Arlit. Ils le savaient. Je peux en témoigner à titre personnel. La veille du départ de Ghislaine à Bamako, elle m'a dit qu'elle était au courant de cette libération imminente.
Merci beaucoup, Pierre-Yves Schneider. Aujourd'hui, Cheikh Amadou Diouara, quels sont les moyens de pression dont on dispose? Pierre a parlé tantôt de certains moyens qu'on a, mais justement, en tant que journaliste malien, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer le dossier?
D'abord, c'est de faire de sorte que nos confrères qui sont morts ne soient pas oubliés. en devoir de mémoire, et deuxièmement, en tant que journaliste, autant que les services de renseignement, que les services policiers et autres, nous avons aussi la technicité d'établir des enquêtes, d'apporter des preuves matérielles et palpables. Travaillons à réunir cela et à les fournir à qui de droit. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont là, qui sont tangibles, que nous pouvons, en réunissant nos efforts, réunir et mettre à la disposition de l'enquête pour que celle-ci avance.
Merci. Tchèvlin Dramé, une cour d'assises spécialisée dans les crimes liés au terrorisme, ça peut faire avancer les choses?
Écoutez, vous venez d'entendre un avis d'expert.
Je sais que vous êtes aussi juriste.
Non, je ne suis pas juriste. Donc, vous venez d'entendre un avis d'expert là-dessus, que finalement, ce n'est pas ces institutions spéciales ou spécialisées qui sont le plus important, et que les choses doivent pouvoir se faire dans le cadre légal existant, et que le problème est plutôt au niveau de la volonté politique. Je crois qu'à Bamako, on a besoin d'un peu plus de volonté politique pour faire avancer les choses. Je crois que depuis Paris, Pierre-Yves Schneider a dit une chose qui est vraie. Il faut que l'opinion publique malienne se mobilise sur cette question pour faire progresser la justice. Elle avait été choquée en novembre 2013 par le crime commis à Kidal. Et je crois qu'il est important que l'opinion malienne ne relâche pas. Que l'opinion malienne ne les lâche pas, qu'elle continue à se mobiliser, que les journalistes, les hommes politiques, les associations de juristes, etc., les professeurs de droit, comme ceux qu'on a, tous se disent que c'est important que la vérité soit connue dans cette affaire. L'oubli n'est pas une bonne chose. Et sur cette question, comme sur d'autres, il est important que l'opinion publique sache la vérité sur un certain nombre de crimes commis au nord du Mali. Et bien entendu, aujourd'hui, il y a une mobilisation autour du cas de Ghislaine et de Claude, mais il est important qu'il y ait une mobilisation, qu'il y ait une vraie opinion publique au Mali, ce qui est un autre problème. Je crois qu'il faut qu'il y ait une opinion publique digne de ce nom au Mali, et que sur d'autres crimes comme Aguel Hawk et d'autres, il y ait des enquêtes et qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Mais il est évident que le rôle de locomotive du gouvernement est important. Et ça, c'est de la volonté politique. Il faut que notre gouvernement manifeste un peu plus de volonté politique pour faire la lumière sur les crimes commis au nord du Mali.
Merci beaucoup. Pierre-Yves Schneider, une journée internationale de la fin de l'impunité contre les journalistes a été instituée par les Nations Unies. Est-ce que ça va déjà changer quelque chose dans cette affaire en cours?
Ah, certainement pas. Je pense que l'ONU a décidé de fixer cette date au 2 novembre en hommage, en effet, à Ghislaine et Claude. Bon, c'est évidemment un acte symbolique très important, mais vous savez, ce n'est pas ce genre de journée qui font avancer les choses. Hein. Et on parle d'avancée de l'enquête. Quand on commence à s'intéresser, si vous voulez, à la manière dont une enquête de ce type-là se passe, on se rend compte que c'est d'une lenteur absolument incroyable. Donc les auditeurs pensent que quand on dit enquête, on voit des policiers qui vont interroger, qui passent leur temps, etc. C'est pas du tout ça. Dans le cadre d'une enquête de ce type-là, c'est une entrevue avec un témoin tous les X mois, etc. Vous savez, c'est ça qui est désespérant. Hein, mais en effet, je rejoins ce que disait Kibilé Dramé, il faut une volonté politique. Or, cette volonté politique aujourd'hui...
De part et d'autre.
Elle n'existe ni à Paris, ni à Bamako, et ça, c'est très très grave. C'est très très grave. Donc, cette volonté, elle ne peut venir que des autres, c'est-à-dire des journalistes et de l'opinion publique, ou éventuellement de responsables, en effet, de partis qui souhaitent que les choses avancent.
Merci beaucoup, Pierre-Louis Schneider. Allez-y, Mamadou Bissé, rapidement.
Une justice très forte et très structurée, le problème aurait pu prendre une autre ampleur.
Merci.
Malheureusement.
Merci beaucoup. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Ils nous ont fait le plaisir d'être avec nous. Cheikh Amadou Diouara, journaliste indépendant. Pierre-Yves Schneider, président de l'association... Il m'a corrigé tout à l'heure. Porte-parole de l'association des amis de Ghislaine et Claude. Mamadou Guissé, professeur de droit. Tchèvlin Dramé, ami de Ghislaine Dupont et politicien malien. Cette émission a été réalisée par Aram Diallo, mise en onde par Salim Diouara. La régie vidéo était avec nous, Ndiri. Merci, à demain pour notre émission.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Halou Dumondi.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.